France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Le carton, le papier, l'énergie, les matières premières agricoles, les fruits et légumes, on ne compte plus les domaines où les prix augmentent, voire explosent en cette rentrée. Qui va payer? Les consommateurs, les entreprises en rognant sur leurs marges ou la grande distribution pour les produits de la vie quotidienne? En tout cas, l'inflation redevient un sujet. Plus 2% en France en août, plus 3% dans la zone euro. Rien n'indique que cela va se tasser. La question des hausses de salaire est également posée, vu le manque de main-d'œuvre, autre facteur d'inflation à son tour. Alors quel mécanisme? Quelles barrières, quelles conséquences pour nous tous? J'attends vos questions et vos témoignages sur ces hausses de prix au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Avec nous, Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au CNRS à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez également un podcast qui s'appelle Un shot d'écho comme un shot de cocktail. Comment explique-t-on ces hausses de prix, Anne-Laure Delatte? Est-ce qu'il y a un phénomène général? Parce qu'on parle de secteurs très différents.
Alors, déjà, pour répondre à votre question, ça n'est pas alarmant. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des augmentations de prix, mais moi, je n'appellerais pas ça de l'inflation. L'inflation, nos parents s'en souviennent, à vous comme à moi, dans les années 70, il y avait de l'inflation, il y avait 5-6% par an. Et en fait, à ce moment-là, ça voulait dire que il était plus compliqué pour une entreprise, par exemple, de savoir, de prendre des décisions sur l'avenir parce qu'on savait pas exactement quels seraient les prix l'année prochaine. Vous voyez, quand je prends des décisions d'investissement ou quand je décide d'embaucher, j'ai besoin, en tant qu'entrepreneur, de savoir comment seront les prix l'année prochaine. Là, on n'en est pas là. On est à moins de 2% sur une année. Alors, évidemment, il y a un impact.
Mais une augmentation assez nette ces derniers mois, malgré tout.
Oui, mais qui s'explique, et qui s'explique de façon vraiment conjoncturelle. Après, il faut bien sûr en tenir compte, et ça a un effet sur le pouvoir d'achat des Français. Enfin, alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on est dans une reprise extraordinaire. En fait, que ça soit en France, en Europe ou aux États-Unis, finalement, on n'est pas vraiment sorti de la crise pandémique, puisque on n'est pas tous vaccinés, et pourtant, l'activité économique reprend. Et quand l'activité économique reprend, c'est la demande. Et donc, il y a plus de demandes de la part des Français, des ménages,
des
Français,
entreprises.
Donc, il y a une augmentation des prix à la consommation et aussi des prix à la production des matières premières. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, l'exemple typique, c'est les semi-conducteurs.
Voilà, j'allais y venir. Ça se traduit aussi par une série de pénuries.
Voilà. En fait, bon, souvenez-vous, grand confinement, on stoppe toute l'économie mondiale. Et là, tout d'un coup, on reprend, et on reprend vraiment très vite. Donc en fait, il y a des goulots d'étranglement un peu partout dans le monde, et notamment en Asie.
La rapidité, la brutalité de la reprise a pris de court un certain nombre d'acteurs économiques, c'est ça que vous nous dites?
Oui, alors il y a un certain nombre de choses qui nous ont pris de court, c'est-à-dire que ce grand confinement, on n'en avait jamais vécu. Donc on a arrêté les chaînes de production. Par exemple, les voitures de seconde main sont devenues très chères l'année dernière. Pourquoi? Parce que comme on ne produisait plus de voitures neuves, les consommateurs se sont reportés sur les voitures de seconde main. Bah, en fait, ça s'est passé un peu dans certains secteurs de cette façon-là. Vous avez eu des goulots d'étranglement parce qu'il n'y avait plus de production. Tout d'un coup, la demande reprend. Alors là, par exemple, en Asie, en ce moment, comme il y a des foyers encore
de Covid,
vous avez des goulots carrément dans les ports. C'est-à-dire que le fret maritime a augmenté. Et donc ça, eh bien, ça augmente les prix. Ça augmente les prix à la production pour les entreprises.
Ouais, parce que le coût du transport maritime aussi a augmenté. La location des containers, le coût du transport, tout au long de la chaîne, il y a des augmentations.
Alors oui. Et vous alliez dire tout augmente, et en effet, enfin, il y a beaucoup de choses.
Je me suis retenu de le dire.
Non, alors justement, il y a beaucoup de choses qui augmentent, mais pas tout, justement. Voilà. Et pour revenir à cette notion d'inflation, en fait, ce qui serait vraiment inquiétant, c'est si on observait une augmentation durable du taux d'augmentation des prix, du taux de croissance des prix. Aujourd'hui, encore une fois, on est à moins de 2%. 2%, c'est la cible que s'est donnée la Banque Centrale Européenne. Donc en fait, on n'y est même pas. Du coup, pour l'instant, ils sont absolument pas alarmés. Bon, aux États-Unis, les prix ont augmenté de plus de 5% l'année dernière. Vous voyez, donc en comparaison, en fait, en France, pour l'instant, on n'en est pas là.
Et est-ce que la Banque Centrale Américaine a commencé à faire les gros yeux avec une augmentation de 5% ou pas?
Eh bien justement, non. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, à 5%, nous, on serait complètement affolés en Europe. En plus, on a les Allemands. Les Allemands, ils sont complètement traumatisés par
dans leur histoire,
Voilà, dans leur histoire. Les États-Unis, mais comme en Europe, disent non, c'est temporaire. En fait, on peut tout à fait expliquer ce qui s'est passé. On a encore une fois des goulots d'étranglement, des pénuries, une forte demande, et donc on a des flambées, mais vraiment, enfin entre guillemets, hein, on a des augmentations de prix brutales, mais ça ne va pas rester, ça va être en une fois en fait.
Et ça va se dissoudre au fond, les goulots vont se dissoudre.
Oui, encore une. Alors normalement, si tout va bien et on a une reprise très rapide, ensuite une reprise qui va se stabiliser, parce que là, on est à plus de 5% par an de croissance, on n'avait pas entendu ça, nous, on ne connaissait pas. Bon, mais c'est normal, on est en train de reprendre. Hein. Une fois que le taux de croissance va se stabiliser, bien les prix vont se stabiliser.
Alors, est-ce que ça explique aussi, parce qu'il y a des hausses dans l'industrie, dans les matières premières industrielles, il y a des hausses des matières premières agricoles aussi. Est-ce que ça répond au même mécanisme ou est-ce qu'il y a autre chose qui explique ces hausses de prix de matières premières agricoles ? Je pense au blé avec les conséquences sur le pain et les pâtes, pour aller de l'origine à la vie quotidienne.
Alors... Oui, d'une part, il y a des facteurs communs, mais là, il y a un facteur supplémentaire, c'est climatique. C'est un facteur climatique, c'est-à-dire que il y a eu une mauvaise saison, on a eu des événements extrêmes climatiques, et ça, en revanche, c'est un facteur structurel. C'est-à-dire que même tout ce qu'on vient de décrire là, j'ai commencé par vous dire « Ah non, mais ça n'est pas alarmant parce que c'est conjoncturel, on peut l'expliquer ». Oui, mais finalement, il faut aussi comprendre qu'on va commencer à vivre dans un monde où les événements extrêmes vont être de plus en plus nombreux. En fait,
Et donc vont se traduire en termes de prix.
Eh oui. En fait, les prix, c'est vraiment le meilleur indicateur en économie de ce qu'est votre activité économique et des enjeux, des problèmes qu'il peut avoir entre l'offre et la demande. Et donc cet écart-là, par exemple, suite à des inondations ou à des incendies, ou enfin à tout ce qui peut traduire le changement climatique, bien sûr que ça va avoir des effets. Alors ça a des effets, on le comprend bien sur les produits agricoles, hein, sur les prix agricoles, puisqu'il y a une pénurie, donc les prix augmentent tout d'un coup. Mais ça va avoir des effets dans l'industrie, parce qu'il y a des goulots d'étranglement, comme sur les semi-conducteurs. Et donc, on sait d'un côté que on doit s'habituer à une économie qui va être probablement plus erratique parce que on va subir ce genre d'événements. Malheureusement, la pandémie n'est probablement pas la dernière et on aura des catastrophes climatiques comme il y a eu en Allemagne cet été. Donc il va falloir s'habituer à ce côté erratique. Mais là où ça n'est pas inquiétant, alors c'est hyper inquiétant pour notre climat, pour notre planète, etc. Mais en fait, l'inflation, pour revenir au sujet, le moteur de l'inflation, c'est les salaires. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire.
Et on parle d'augmentation des salaires parce qu'il y a souci de pénurie de main-d'œuvre. Donc les syndicats et même le MEDEF disent la question des salaires se pose. Donc moi, ce que je me dis, mais voilà, j'attends votre éclairage, c'est que en plus, il y a cet élément qui va arriver et qui va peut-être nourrir l'inflation.
Oui, alors, bon, on en parle, mais on n'en parle quand même pas beaucoup. Alors, en fait, institutionnellement, on n'est pas du tout dans le même marché du travail que dans les années 70. Pour le dire très simplement, le pouvoir de négociation des salariés s'est largement amoindri depuis les années 70. Et en plus, on n'indexe plus les salaires à l'inflation. En fait, les derniers qui ont connu ça, en France, c'était au début des années 80. C'est sous Mitterrand qu'on a arrêté d'indexer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les prix ont beau augmenter, moi je dois négocier avec mon patron, alors moi ou les syndicats qui me représentent, doivent négocier.
Et donc, qui manifesteront sur ce thème le 5 octobre.
Oui, mais alors vous voyez que on est dans un rapport de négociation beaucoup plus tendu que dans les années 70 où c'était automatique. Et en fait, c'est ça qui créait l'inflation. C'est ça qui a été cassé. Alors, d'un côté, c'est positif pour la stabilité des prix. De l'autre, ça l'est probablement moins pour le marché du travail, pour les salariés et pour la défense du pouvoir d'achat.
Encore une question dite de macroéconomie et puis on reviendra à la vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire que, vous nous dites, l'économie va devoir changer? Il y a goulot d'étranglement et puis il y a les incertitudes qui vont peser liées au changement climatique. Est-ce que ça veut dire que l'idée que les entreprises fonctionnent avec le minimum de stock possible est une idée qui appartient au passé? L'usine Toyota est actuellement à l'arrêt parce qu'on manque de semi-conducteurs. C'est Toyota qui avait inventé, entre guillemets, cette idée du just-in-time. Les pièces arrivent au fur et à mesure, c'est fini, ça, il va falloir faire des stocks.
Il va probablement falloir changer pas mal de façons de travailler et de produire. Alors, est-ce que ça va se traduire dans les stocks pour certaines entreprises? Est-ce que ça va se traduire par un raccourcissement des chaînes de production ou des chaînes de valeur? En fait, ce qu'on a observé depuis 20 ou 30 ans, c'est que, en fait, il y a de plus en plus de pays impliquée dans la production d'un bien manufacturé.
Oui.
D'accord ? Avant, on en avait peut-être deux, maintenant, on en a 10. Mm-hmm. Et donc, peut-être une autre façon de réagir à ces goulots d'étranglement, c'est de réduire au maximum, ou tant que possible, ces chaînes de valeur pour être moins dépendant, justement, des fluctuations comme on vient de les subir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de réduire les stocks? Bah, tout ça, en fait, ça va être de l'apprentissage dans les entreprises. Il y a des gens qui ont un métier pour ça, qui vont aider les entreprises à optimiser leur logistique.
Ouais. De réduire ou de les gonfler, on voit qu'on demande maintenant, on va demander aux laboratoires sur un certain nombre de produits d'avoir 2 mois de stock devant eux.
Oui,
par
exemple, pardon.
Pour les médicaments.
Oui, c'était augmenter les stocks et réduire les chaînes de valeur. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible? Voilà, on va faire des efforts en logistique. Et deuxièmement, sur les chaînes de valeur, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on puisse réduire ça, parce que en plus, ça impliquerait moins de transport, donc moins d'émissions carbone.
Question d'Emmanuel au Standard. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, merci de nous appeler.
Ben, je vous en prie. Écoutez, ma question est plutôt une remarque et une interrogation plus de ma part. Je fais construire une maison passive bioclimatique en ossature bois. Le projet est né il y a un an à peu près. On a longuement réfléchi et je dirais que le budget me permettait il y a un an. Aujourd'hui, les devis arrivent et ils ont pris entre 20 et 30 %. Mmh. Donc le projet est complètement remis en question, voire annulé. C'est un peu dramatique parce que on fait un effort sur le fait de construire peu énergivore et finalement on se retrouve coincé. Et c'est dommage que nous, ceux qui essayons de construire bioclimatique et avec des matériaux biosourcés, ne soyons pas un peu plus aidés, contrairement à la rénovation pure et simple, sur des bâtiments qui des fois ne le nécessitent pas parce que finalement ça coûte aussi cher de le détruire que de le rénover. Voilà, la question est combien de temps ça va durer, parce que j'aimerais signer bientôt les devis, mais n'ayant aucune perspective, ni même les fournisseurs, ni même notre architecte n'ont de perspective favorable, on va dire optimiste. On se pose beaucoup de questions.
Je comprends. Merci Emmanuel pour ce témoignage et j'aurai une autre question sur l'immobilier. Anne-Laure Delatte, je vous laisse réagir à ce que vient de dire notre auditeur.
Mais en fait, c'est malheureusement une bonne illustration de ce que je viens de me dire, il me semble, parce que premièrement, vous voyez, l'auditeur vient de nous dire en fait, combien de temps ça va durer, parce que l'architecte est paumé, tout le monde est paumé dans l'histoire. Mais c'est vraiment une bonne illustration de quand les prix augmentent, en fait, on n'arrive pas à anticiper les décisions. Et donc, l'idée d'avoir des prix stables, en tout cas une inflation stable, d'accord, c'est d'ancrer les anticipations. Donc là, vraiment, on a un bon exemple. Après, enfin, malheureusement, pour l'auditeur. Oui. Maintenant, c'est vraiment très ciblé, c'est-à-dire que c'est sectorisé. En fait, ça doit être le prix du bois, puisque apparemment, il nous a parlé du bois.
De cette surbois, oui.
Voilà, donc ça doit être le bois et certaines matières premières. Et ça illustre un deuxième point, c'est la difficulté des politiques publiques à réagir dans ces cas-là. Parce que ce que nous dit l'auditeur, c'est malheureux, parce que moi, je voulais construire une maison qui s'adapte au climat, enfin qui est plutôt dans la bonne tendance qu'il faut aujourd'hui. Et je suis pas aidé finalement par les autorités publiques. Et donc là, je trouve que ça illustre bien la difficulté d'un État, d'une administration, à réagir le plus vite possible à ce genre de fluctuations.
Anne-Laure Delatte, on sait à quel point les taux d'intérêt bas ont stimulé le marché immobilier. Est-ce que il risque d'y avoir une hausse, aussi minime soit-elle, des taux d'intérêt qui rendrait un peu plus compliqué l'acquisition de biens immobiliers?
Alors, pour l'instant, du côté des banques centrales, il n'en est pas question. Comme on disait tout à l'heure, la réserve fédérale américaine nous dit on n'a pas de problème d'inflation. Alors, je vais commencer à normaliser ma politique d'ici 6 mois et peut-être dans 1 an, je réfléchirai à augmenter légèrement mes taux. En Europe, on n'en est pas là du tout. Nos taux directeurs sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a des taux pour l'instant qui ne vont pas augmenter. Et non, moi je serais plus inquiète sur les prix de l'immobilier en général
sur les taux
d'intérêt.
Merci Anne-Laure Delatte d'être venue dans les studios de France Inter. Je mentionne donc votre podcast, un shot d'écho qu'on trouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast. 13h44.